le Fils. Le cœur du Fils, c'est le bon berger. Versets 4 à 7. La seconde, on la lira rapidement, c'est l'histoire de cette femme qui est veuve, qui a perdu des pièces d'argent. Et il est dit que Dieu a cherché, et ça c'est la personne du Saint-Esprit, qui cherche là ce qui est perdu, qui met la lumière là où il n'y a pas de lumière, qui éclaire les ténèbres. Cette femme vivait dans un lieu où il n'y avait pas de fenêtre. Et la troisième, vous connaissez le fils prodigue, ça nous parle du père. Les trois cherchent. Le fils cherche la brebis perdue. Le Saint-Esprit cherche la pièce qui a été perdue. Et le Père cherche le Fils. Donc le caractère de Dieu, de la Trinité même, c'est de chercher. Et c'est pourquoi il peut nous dire « Cherchez-moi ». Parce que lui-même, c'est son caractère à lui, le caractère d'être un chercheur. C'est pas qu'il est là sur son trône et qu'il allait chercher moi. Mais non, il s'est levé de son trône. Il est venu jusqu'à nous pour nous chercher. Et encore aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu. C'est un peu le cœur du Père, du Fils, du Saint-Esprit. C'est un Père qui est au bord du parvis de la maison et qui dit « Mais viens dans mes appartements » et qui attend, etc. Donc, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, s'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Voyez, juste la notion 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Attention au message de la justice qui ferait que l'on pense qu'on est évité, qu'on n'a plus besoin de se repentir. Ça peut être aussi un piège. Nous sommes justifiés par Dieu, bien sûr, mais dans notre vie, régulièrement, parfois Dieu nous dit là, repens-toi, et on vient vers lui. Attention, parce que les justes qui pensaient qu'ils n'avaient plus besoin jamais de repentance, ce n'est pas ça le message de la justice qu'on a donné jusque-là. Parfois, on a besoin de repentance, bien sûr. Attention à ne pas pervertir les choses. Alors, les brebis, ça nous parle des gens qui font partie du troupeau de Dieu, hein, mais qui se sont éloignés. Et voyez, il est dit, il est allé après celle qui était perdue, même dans le désert. Il est allé, il a cherché cette brebis. Et alors, quand il la retrouve, il y a une joie. La joie de Dieu vient toujours quand il y a un processus qu'il peut faire, qu'on lui accepte de faire dans notre vie, qui est de la restauration. Nous, on se plaint parce qu'on dit « Oh là là, tout ce qui est cassé, tout ce qui doit être restauré. » Mais lui, quand il a restauré quelque chose, il se réjouit. Il aime construire. Il aime restaurer. Et quand il voit une ruine, il dit « Chouette, j'ai de la restauration. » Il y a des pères de famille, parfois, j'ai connu des gens, ils aiment bricoler, ils aiment tout ce qui est vieux, ils aiment tout ce qui est presque moche, parce qu'ils voient déjà ce qu'ils vont pouvoir faire. Alors, ces genres de gens-là, ils ne vont jamais acheter ou louer une maison où il n'y a rien à faire. Ils aiment quand il y a plein de boulot. Ils aiment, ils sont joyeux dans la restauration, vous voyez. Moi, vous me dites ça, moi je suis mort. Mais il y en a, ce n'est pas pareil. Alors, ils achètent du vieux et déjà, ils voient comment ça va être. Ça, c'est un don. Et ça, c'est le don de Dieu. Donc, il aime voir les ruines quand ces ruines disent au secours. Et c'est la joie qu'il a de pouvoir vraiment le restaurer. Alors, voilà la notion de il va la porter ensuite sur ses épaules. Et j'ai pensé une chose, juste une petite parenthèse, mais il est dit que Jésus est la tête. Et là, il est dit qu'il porte sur ses épaules. Les brebis sont appelées, elles ne sont pas portées par la tête quelque part. L'Église est le corps de Christ. Lui, il est la tête. Les épaules, ça nous parle du gouvernement, de l'autorité de l'Église, ça nous parle de ce gouvernement dont le rôle de l'Église est de porter aussi. Jésus a porté, nous sommes appelés à porter. Quand tu prends du temps, par exemple, pour aller à Caleb, trier des vêtements, et ces vêtements seront portés par d'autres, tu portes des hommes et des femmes, tu portes ton prochain. Donc porter sur les épaules, ça peut être intéressant à réfléchir. Et Dieu dit, réjouissez-vous avec moi. Réjouissez-vous avec moi. Et donc voilà, Dieu se réjouit déjà maintenant. Même dans ton immaturité, dans notre immaturité, Dieu s'est réjoui parce que nous avons choisi de dire, bon Seigneur, on est comme ça, mais on avance, on avance. Maintenant, la parabole de la pièce perdue, Luc 15, 8, 10. Quelle femme, si elle a 10 drachmes, 10 pièces d'argent, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis, ses voisines, et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et là, on voit, elle allume la lampe, et la lampe, ça nous parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui va chercher lui aussi, qui va allumer dans les plus sombres recoins. Et donc, c'est un Dieu qui cherche, voyez. La Trinité est toujours dans cette recherche du perdu, du cœur brisé, de celui qui se sent à côté, sur la touche, rejeté. Et la parabole du fils prodigue, très rapidement, mais on la connaît bien, je relis juste quelques versets, mais il dit encore un homme avait deux fils, le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, etc. Et on connaît cette parabole, voyez. Et regardez ce fils. Regardez. Il voulait l'héritage, mais sans la relation. Comprenez ? Il voulait le fric, mais il ne voulait pas la relation. Eh bien, l'héritage avec Dieu, l'héritage saint avec Dieu qui veut nous donner l'héritage, c'est toujours avec la relation. Et si on le demande sans la relation, si on demande plus de puissance, si on demande plus d'onction, si on demande plus de tout ça, mais qu'on ne veut pas, ou qu'on ne cherche pas la relation, nous sommes le fils qui risque de se trouver avec les pourceaux un jour. C'est pour ça que ce fils prodigue, cette parabole, le début de la parabole, nous met en garde et nous dit dans ce début d'année d'église, Dieu cherche d'abord des cœurs qui le cherchent. C'est ça qu'il veut. Et ce fils, il y a un moment, il dit, mais traite-moi comme un mercenaire. C'est quoi un mercenaire ? Pour tout ce qu'il fait, il est payé. C'est ça le mercenaire. J'ai fait un truc, je dois être payé. Mais ça, ce n'est pas la relation avec Dieu. Parfois, on fait des choses, on n'est pas payé comme on l'entend. Hein? C'est pas. Et alors, du coup, il y a des gens qui s'arrêtent là. Bah, Seigneur, tu as vu, j'ai fait ça, ça, ça pour toi. Et puis, regarde, j'ai toujours pas de femme. Hein? Par exemple, on peut inverser aussi. Alors, on est fâché, puis on arrête et on boude. Alors, bien sûr, parfois, on a du mal à savoir ce qui se passe en nous. Mais souvent, c'est ça. Je n'ai pas été payé. On est des mercenaires parfois. Et Dieu nous dit, voilà, ben écoute, reviens à la maison maintenant. Hein. Reviens. C'est pas grave, tu l'as été mercenaire, ok, maintenant repends-toi, viens à la maison, je t'attends. Hein, et on va changer de relation. Hein. Voilà, c'est ça qui me paraît plus important, la notion dans ce fils prodigue que je voulais relever. Et vous connaissez le verset 20, il se leva, il alla vers son père, comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion et courut se jeter à son cou. Là, le Dieu cherche, non seulement il cherche en marchant, mais il cherche en courant. C'est pour ça que Dieu peut nous dire, cours avec moi aussi. Je cours à ta suite, Seigneur. Dieu court. Dieu court vers toi. Et ensuite, tu te chopes. Et ensuite, il demande, viens courir avec moi maintenant. C'est vraiment une course. J'ai vu une photo récemment. Vous savez, il y a un fameux coureur qui a pas de jambes. Enfin, il a plus de pieds, quoi. Il marche sur des sortes de prothèses bizarres. Il a gagné les paralympiques souvent et maintenant il est avec les normaux, quoi, quelque part. Mais quelle volonté de courir ce gars il a eu. Et tout le monde disait, t'es un paralysé, tu peux rien faire, surtout pas du sport. Fais autre chose, mais pas du sport. Non seulement il a gagné dans les Jeux paralympiques avec l'étiquette paralysé, mais il a gagné dans les Jeux avec les coureurs normaux. C'est incroyable ça. Et Dieu veut qu'on gagne la course avec les vrais coureurs. Nous ne sommes plus des paralytiques, mes amis. Et si nous croyons, ben moi je ne peux pas courir très vite, regarde, j'ai ça. Attention aux excuses. Il n'y a pas d'excuses pour ne pas courir. Dieu nous dit, voilà, cours avec moi. Là, on a un exemple extraordinaire de quelqu'un qui a persévéré jusqu'au bout et qui a gagné. Voilà, nous savons vraiment quelque chose de fort là. Alors, Jésus décrit la façon dont le Père répond. Il voit, qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il est ému de compassion et il va secourir, il jette à son cou. Et donc, ce baiser du Père, vous savez, c'est là, le baiser de Dieu, c'est toujours là, le signe de la restauration, de la faveur. Et vous remarquez, il n'y a même pas de période d'approbation. Hein. Bon, écoute, tu as fait le zouave, ok. Alors maintenant, je t'embrasse, d'accord, mais on va quand même tester un moment, parce que, hein, avant de faire comme avant, période probatoire. Et c'est pas, même pas ça. Il n'y a jamais de période probatoire avec Dieu quand on revient à lui. Immédiatement, il y a le pardon qui vient. C'est les hommes qui, parfois, mettent des tas de trucs. Voilà, alors, ensuite, donc, chercher Dieu comme il nous a cherchés, et nous cherche encore. Maintenant, aimer Dieu comme il nous a aimés. Et dans Marc 12, 30, il est dit, j'ai bientôt fini, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Donc, Dieu nous a créés pour l'aimer de tout notre cœur, ça veut dire dans tous ses domaines, le domaine des émotions, le domaine de la volonté, le domaine intellectuel, le domaine de la force physique, de nos capacités, de nos dons, bref, toute notre personne, tous les aspects, tous les recoins de nos appartements sont appelés à aimer Dieu. Maintenant, pourquoi il nous demande ça? Et je reviens à ce qu'on a dit au début, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, parce que Dieu nous aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Comprenez ? Il nous aime de cette manière-là. Toutes les émotions de Dieu sont dirigées vers nous. Toute sa pensée est dirigée vers nous. Il nous aime de cette façon. « Je t'aime avec toute ma pensée, dit Dieu. C'est pour ça que j'aimerais que tu m'aimes de toute ta pensée aussi. » Et c'est pour ça, en ces débuts d'année d'école chrétienne, c'est souvent un des centres, messages centraux. Comment peut-on aimer Dieu de toute sa pensée si on a appris à penser sans lui? Voilà. Et c'est pour ça que si on veut sortir d'un christianisme d'expérience, ce qui est absolument essentiel, bien sûr, si on veut sortir d'un christianisme seulement d'émotion aussi, on a besoin d'un christianisme de tête et de pensée. Et pour ça, ça demande toutes ces écoles dans le pays. Sinon, la France n'aura jamais appris à aimer Dieu avec sa pensée. Les écoles sont ce signe prophétique. Et c'est bien pour ça qu'on est persécuté. C'est bien pour ça que j'ai dû aller sur Paris. Parce que tant que tu dis, moi j'aime Dieu, tout ça, on va te laisser. Mais quand tu vas avoir une pensée de Dieu, quelle est la pensée de Dieu sur la famille? C'est un papa, une maman et des enfants. Et quand tu commences à revendiquer, non pas un cœur de Dieu, c'est-à-dire dans le sens l'amour de Dieu pour les hommes. Tout le monde est d'accord avec ça. Et quand tu commences à dire, voilà, il y a des pensées de Dieu aussi, sur tel domaine, voilà comment il pense lui, avec son amour bien sûr, mais il a des pensées bien arrêtées le Seigneur. Il a des définitions à lui qui doivent devenir les nôtres. Et c'est là que la persécution vient. Les gens n'aiment pas qu'on amène les pensées de Dieu dans ce monde, sur la réalité. Voilà un peu le problème. Alors, il est dit dans cet amour, je rappelle quand même, ne se développe pas dans tous ces domaines sans qu'on s'y implique. C'est-à-dire, aimer Dieu de toute sa pensée demande à ce qu'on s'y implique. Vous voyez, ça ne vient pas comme ça. Donc, il y a une implication. Et cette année, en ce début d'année, Dieu demande notre implication pour l'aimer de cette façon-là. Mais ce qui nous aide, vous voyez, c'est qu'on réalise que lui nous a aimés comme ça. Alors même si les hommes ne nous aiment pas, même si des situations ont l'air contre nous, on continue d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Nous sommes têtus parce que nous avons rencontré cet amour de Dieu. En Matthieu 22, l'évangéliste ajoute une parole de Jésus, d'ailleurs à ce même message, que Marc d'ailleurs ne mentionne pas, c'est le verset 38, et il rajoute ceci, c'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand. Alors vous connaissez après, aime ton prochain, tout ça, mais le premier est le plus grand commandement. C'est la priorité numéro un de Dieu. C'est la première mission du Saint-Esprit dans nos vies. Et peut-être au milieu de nous, il y en a qui se demandent, je pense aux élèves de terminale, je pense à des élèves ici qui disent, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard? Quel est mon appel, Seigneur? Ben moi, je vais te dire ton appel aujourd'hui. Et tu vas me dire, est-ce que ça va être une prophétie? Je vais dire, oui, c'est une prophétie. Ton appel, ton premier appel, est d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ça, de toute ta pensée. Et quand tu accomplis ce premier appel, alors tout s'ouvre, tout s'ouvre. Les désirs de Dieu, ça devient les tiens. Et ça se fait tout seul. Donc, voilà, l'appel est là. Et si tu n'as pas encore de choses précises pour plus tard, focalise-toi sur le premier commandement qui est ta première mission, ton premier appel. Ce n'est pas seulement le premier commandement, c'est le plus grand. C'est celui qui a le plus d'impact sur le cœur de Dieu. C'est celui qui émeut son cœur et du coup qui impacte le nôtre. Donc non seulement ce commandement a le plus grand impact, mais c'est le plus grand appel dans notre vie. Alors ne soyons pas focalisés sur ce que nous devons faire, mais soyons focalisés sur ce que nous sommes appelés à être avant. Et le reste bien sûr viendra, mais ça c'est important. Ce que nous sommes appelés à être est plus important. Et cela doit être l'objet de nos pensées. Voilà, donc on développera cette pensée du commandement, du premier commandement, le plus grand. On le développera, je pense, dans d'autres messages. Mais voyez, Dieu nous recherche. C'est pour ça qu'il nous demande de le chercher. Et même si on croit l'avoir trouvé, ne croyez pas avoir fait le tour de la question. Les appartements de Dieu sont tellement vastes, tellement grands, tellement immenses. Et puis en même temps, Dieu demande à ce qu'on l'aime. De toutes ces façons, parce qu'il nous aime, lui, avec toutes ces façons-là. Et c'est extraordinaire de penser ça. Et rien qu'en pensant à cela, ben nos cœurs se réjouissent. Donc, qu'il est ce caractère de Dieu. Avant de parler de vision spécifique d'Église, avant de parler de travaux, avant de parler des choses à faire, Dieu nous rappelle, en ce début d'année, le plus grand commandement. Et dans ce plus grand commandement, il y a une quête, il y a une recherche, il y a une implication. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette passion que tu as pour nous, Seigneur. Et ça nous dépasse, on ne comprend pas. On ne comprend pas tout, Seigneur, et on l'accepte. Mais Seigneur, tu es un Dieu qui nous cherche, aujourd'hui encore, tu cherches tes enfants. Et tu veux toujours ramener, tu es un Dieu qui restaure, tu es un Dieu qui ramène au bercail, tu es un Dieu qui ramène au centre de ta volonté, qui cherche ceux qui sont en périphérie tout le temps, et qui ramène, et qui n'a pas cessé de dire, venez, venez. Venez à moi. Et Seigneur, merci pour cet amour incommensurable, qui est un amour de toutes tes émotions, toute ta pensée, toute ta force, pour chacun de nous, Seigneur. Et cela, rien que comprendre, réaliser cela, eh bien, ça nous donne la force pour nous lever et pour dire, eh bien, Seigneur, tu vaux la peine qu'on court à ta suite et qu'on te cherche et que l'on t'aime. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, encourage-nous, Seigneur, à marcher à ta suite. Et à adopter ce caractère de Dieu. Merci Seigneur. Bénis chacun. Bénis ce dimanche, cette journée, cette semaine de rentrée pour les enseignants du public au milieu de nous. Ta faveur sur chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, pardon, oui. Donc, les dîmes et les offrandes.